Là, maintenant, on va aborder le coût des maladies environnementales avec le docteur Pierre Mignan, qui est responsable des dossiers médicaux, si j'ai bien compris, dans des établissements de soins région Montpellier. Donc vous allez nous parler d'un rapport américain.
Voilà. Alors, mon travail dans la vie courante, je suis responsable de ce qu'on appelle... je suis médecin DIM, c'est-à-dire je suis responsable, je supervise le dossier médical, c'est-à-dire de l'entrée du patient jusqu'à sa sortie, dans différents établissements d'un groupe de l'Hérault qui s'appelle Clinipol. C'est-à-dire je... contrôle les données quantitatives, qualitatives, la qualité du dossier. J'exploite les données qui peuvent être intéressantes pour les cliniques en question, mais aussi pour les agences régionales de santé de ces dossiers. Je vous précise mon activité parce qu'en fait, dans mon activité de tous les jours, je vois passer sur une année des milliers de dossiers, hein, que ce soit en chirurgie, en rééducation, en psychiatrie, et je m'aperçois que la mention de conséquences d'effets chimiques sur la santé des personnes qu'on voit, pour résumer, j'en vois quasiment jamais la trace dans les dossiers. C'est-à-dire qu'on voit plein de patients malades, on sait qu'il y a des produits chimiques dans l'environnement autour de nous, tout le monde le sait, mais en fait, le lien entre les deux, ben, on le voit pas. Donc on voit effectivement des diabétiques, des gens qui ont des problèmes endocriniens, mais pour faire le lien, c'est difficile. C'est pour ça, d'ailleurs, dans le groupe, là, avec Laurent Chevalier, ont été créés un comité de réflexion avec des consultations sur ces problèmes environnementaux. Voilà. Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'un rapport qu'a fait l'ONU sur les produits chimiques. Ça s'appelle donc Global Chemical Outlook, en fait, qu'on peut traduire donc comme j'ai mis perspective mondiale en matière de produits chimiques. Voilà. Alors je l'ai lu rapidement une première fois. C'est un petit rapport, hein. Ça fait une cinquantaine de pages. On peut le télécharger. J'ai trouvé qu'il y avait rien de nouveau, en fait. On parlait des dégâts des produits chimiques, on parlait des conséquences financières, des sanctions financières et tout. Mais en le relisant, j'ai vu qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est la méthodologie utilisée pour ce rapport. Alors, ce rapport fait suite... Voilà, ce rapport fait suite en fait à différentes réunions mondiales qu'il y a eu depuis quelques années et qui ont commencé en fait vraiment en 1992 au sommet de Rio, où des gouvernements, des pays ont pris l'engagement de mieux gérer les produits chimiques dans l'environnement et pour protéger la santé de leurs concitoyens. Voilà, ils ont signé des textes. Alors, il y en a eu des quantités, hein, depuis 92, mais je vous donne les principaux. Il y a eu notamment en 2006 la déclaration de Dubaï. Tout ça, c'est des déclarations de bonnes intentions, hein, des gouvernements, des responsables politiques. C'était pour les produits chimiques. En 2002, ça c'est important, donc c'était un sommet de Johannesburg sur le développement durable où on se disait en 2002, on s'engage de façon qu'en 2020, pas que tout soit réglé, mais qu'au moins on ait beaucoup avancé. Vous verrez que c'est pas si simple que ça. En juin 2012, donc 20 ans après le premier sommet de Rio, donc 188 États se sont réengagés à mieux utiliser les produits chimiques. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, donc, c'est la méthodologie, comme je vous disais. Donc, je pense que, comme je vous disais, tout le monde est conscient des produits chimiques dans la vie de tous les jours, que ça s'incruste dans notre vie de tous les jours, des effets, désastreux sur la nature, sur la santé. Mais ça, on a l'impression que tout le monde le sait, il n'y a rien de nouveau. L'ONU, donc, enfin, la version environnement de l'ONU, c'est-à-dire l'UNEP, a décidé de créer un comité de pilotage sur le sujet, donc avec à l'initiative surtout de la Suède et de la Norvège. Donc ce comité de pilotage a fait 4 réunions. Il y a des représentants gouvernementaux. Vous voyez qu'il n'y a pas tous les pays, mais il y a des pays qui se sentent peut-être plus concernés. Peut-être la Norvège et la Suède pour leur niveau de développement économique, l'Allemagne et les USA pour leur puissance industrielle, le Niger et le Cambodge, on peut penser plutôt pour les utilisations des pesticides qui, comme vous le savez, en Afrique subsaharienne sont extrêmement importantes et extrêmement mal gérées. Ah, c'est bon, c'est pas grave. Ce qui est important, je me répète un peu, mais c'est que là, vous voyez, c'est pas il y a des universitaires américains, il y a des ONG, mais que je connaissais pas particulièrement, des consultants, mais surtout beaucoup de représentants de l'industrie chimique dans le monde. Donc, c'est-à-dire cette discussion qu'a eu l'ONU de se dire on sait les effets. Alors, il y a deux solutions quand il y a des effets désastreux des produits chimiques, c'est de sanctionner, de faire des lois, de donner des amendes aux coupables. Mais il y a aussi la solution, comme ils ont fait, c'est-à-dire de discuter avec les chimistes eux-mêmes, les fabricants de produits chimiques, les utilisateurs, pour voir quelles solutions on pouvait apporter dans l'avenir. Hein. Parce que voilà, c'est ça, le problème, c'est que les producteurs et utilisateurs sont en général pas ceux qui payent, sauf exception, les dégâts dans la nature ou sur la santé. Surtout dans la santé. La santé, c'est les gouvernements, les pays qui payent hein, les frais de santé. Voilà. Donc, ce rapport a de grandes intentions, hein, c'est-à-dire est divisé en 4 chapitres. Je vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est... C'est assez technique, mais enfin, on peut dire qu'il essaye de faire une analyse de l'utilisation des produits chimiques dans le monde, comment estimer les bénéfices économiques pour ces pays à partir du moment où ils utilisent des produits chimiques, mais aussi les effets néfastes sur le plan économique, tant sur la santé que l'environnement. Et ils essayent d'apporter des réponses politiques, d'orienter les décideurs, comme on dit, à essayer de mieux gérer l'utilisation de ces produits. Ces produits chimiques, je vous donne les chiffres de l'ONU. Donc, 143 835 produits chimiques recensés, c'est-à-dire qui sont déterminés, qui sont définis. Mais sinon, le nombre exact est donc totalement inconnu à l'heure actuelle. Donc ces produits chimiques, quand ils sont utilisés dans un pays en croissance, donc bien sûr ça favorise l'emploi, les pays amorcent une croissance importante, les échanges, import-export, etc. Mais évidemment sont défavorables parallèlement, mais peut-être avec un petit temps de latence, sur la santé et l'environnement. Les produits chimiques dans le monde, voilà l'évolution. En 70, ça représentait 171 milliards de dollars. En 2010, c'est 4 120 milliards de dollars. Donc c'est une part très importante dans l'économie des pays. Ça fait partie intégrante de l'économie d'un pays. Sur ces 143 000 produits recensés, juste une petite parenthèse, donc il y a 3 000 produits recensés toxiques pour la vie aquatique. Alors, bon, vous les connaissez, les pesticides, les métaux lourds. Métaux lourds, moi je ne savais pas, mais c'est surtout par la production de ciment et d'engrais, la production qui donne des métaux lourds dans la nature. La dioxine qui vient des exploitations minières. Donc ça, c'est les principaux produits chimiques toxiques pour la vie aquatique. Et donc les fameuses, là aussi une petite parenthèse, sur les zones mortes, c'est-à-dire 169 zones dans le monde côtière. Il y a une disparition très très importante de la faune et de la flore. Et je crois qu'il n'y en a que 19 où ça s'est amélioré depuis quelques années. Voilà. Alors. Donc ce rapport, je ne vous l'ai pas dit, oui, j'ai oublié de vous le dire, il date de septembre, du 5 septembre 2012. Donc c'est un petit rapport, mais qui a été commenté pas mal. Mais je pense qu'il faut y revenir parce que, comme je vous dis, cette méthodologie est quand même intéressante. Donc, dans la structure de rapport, rien de bien nouveau, hein, analyse de la production, impact sur la santé, impact économique, voilà. Mais surtout, dans la deuxième partie du rapport, que je ne vous ai pas mis à l'écran, vous ne pouvez pas le voir, le coût de l'inaction et le bénéfice de l'action. Donc l'ONU aussi a à présenter des chiffres pour montrer qu'est-ce qui peut arriver si on gère mal les produits chimiques, avec des données chiffrées précises. Pas beaucoup de données, hein. Il n'y a pas beaucoup de chiffres dans ce rapport. Le rapport intégral, je pense, n'est accessible qu'aux personnes qui travaillent à l'ONU. J'ai vu qu'il fallait un code pour y accéder, mais enfin, disons que ce résumé donne quand même pas mal d'idées. Et donc la troisième partie de ce paragraphe, c'est donc essayer de trouver des solutions pour atteindre les objectifs de 2020, sachant qu'on est déjà en 2013. Alors les produits chimiques, voilà aussi les chiffres de l'ONU. Donc on estime à 4,9 millions de morts directement liées à l'utilisation des produits chimiques ou la consommation, le traitement, l'élimination. Donc ça fait 8,3% des décès dans le monde. J'ai mis à côté, donc là aussi c'est les chiffres de l'ONU, vous voyez que le sida ça représente 2 millions, tuberculose, etc. Donc ça veut dire que c'est quand même très très important le nombre de morts dont on parle en fait relativement peu. On va parler du paludisme, du sida, des affections cardiovasculaires, mais les produits chimiques quand même entraînent beaucoup de dégâts. Et en bas, donc, c'est ce qu'on appelle les dailies, c'est-à-dire les années de bonne santé perdues par décès prématuré, c'est-à-dire avant l'âge normal de décès ou d'invalidité. Par exemple, les accidents de travail, un produit chimique entraîne des accidents, donc on perd des journées de travail, voire on perd des vies. Voilà, et donc ça représente 86 millions de journées par an. Voilà. Oui, voilà, je ne l'ai pas mis sur la diapo. Les frais, une parenthèse là aussi, les frais occasionnés par l'amiante et les cloisons sèches contaminées s'élèvent à 125 milliards de dollars dans le monde. Par an, et ça ne cesse d'augmenter, hein, ce chiffre, simplement lié à l'amiante. Alors, donc voilà, la consommation des produits chimiques augmente à grande vitesse. Je mets mes lunettes. À grande vitesse dans le monde, on voit le... Oui, bon. Que ce soit dans les pays développés ou non, hein, il y a quand même... Bon, alors, en bas, vous voyez sur le tableau du bas, c'est un tableau qui n'est pas très lisible, mais on voit la Chine en bleu, qui, elle, augmente à une vitesse très, très importante l'utilisation et la consommation des produits chimiques. Au niveau mondial, on considère qu'il y a une augmentation de plus 3% par an, prévu jusqu'en 2050 d'utilisation, enfin de la progression de l'activité économique tout compris liée directement aux produits chimiques. Oui, il y a toujours le petit truc qui apparaît. L'USA, le Japon et l'Allemagne sont des pays en forte croissance, hein, donc ils consomment un peu plus, mais on peut voir que les BRICS ont la production des produits chimiques, les BRICS, donc Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Rien que l'économie liée aux productions de produits chimiques a dépassé celle des pays de l'OCDE. La Chine donc a augmenté, c'est ce qu'on voyait sur la courbe avant, de plus 24% en 10 ans, l'Inde plus 14%. Vous avez vu d'ailleurs tout à l'heure que ni la Chine, ni l'Inde, ni les BRICS ne faisaient partie de ce comité de pilotage, hein, sur les produits chimiques. Mais bon, ils seront obligés d'y venir parce que un jour ou l'autre, comme vous le verrez tout à l'heure, ils vont avoir une incidence sur leur économie liée aux effets environnementaux et sur la santé. Alors, ce que montre aussi ce rapport, c'est qu'en fait, l'économie progresse dans un pays, donc automatiquement l'utilisation des produits chimiques et automatiquement, sans doute, l'augmentation des déchets. Donc, tout ça pour dire que chimie et produits chimiques et... comment dire, activité économique est intimement liée dans nos sociétés actuelles et de plus en plus. Alors, pour parler de la pénétration des produits chimiques dans l'économie, c'est pas forcément le mercure comme on le voit ou le plomb, c'est aussi les ordinateurs, c'est plutôt les ordinateurs, les téléphones portables. Vous voyez une augmentation très importante, donc qui génère donc beaucoup de produits toxiques, beaucoup de produits chimiques toxiques, dont 40 millions de tonnes par an. Et un autre paramètre à noter, c'est que ces déchets, en fait, mais en France et partout dans le monde, encore plus aux USA, ne sont en fait pas comptabilisés. Là, on peut jeter un ordinateur dans une benne à ordures. En fait, on va libérer dans la nature plein de différents produits toxiques qui vont s'incruster petit à petit dans l'environnement et dans l'être humain. Alors, je reviens sur des chiffres économiques. La Chine consomme 42% des produits chimiques dans le monde, notamment à cause des textiles. L'Afrique du Sud, c'est plutôt l'utilisation massive des pesticides. Donc, vous voyez, 60% en combien ça fait 20 ans, 22 ans. L'Amérique du Nord aussi progresse. Et donc là, ils ont calculé qu'en fait, sur 5,7 millions de polluants produits, en fait, il reste à près 2 millions de tonnes qui restent dans la nature, donc potentiellement toxiques. Et donc, potentiellement toxiques, donc en même temps, il y a une augmentation, comme en Chine, des accidents environnementaux. Hein, donc le pays se développe, il utilise plus de produits chimiques, et il y a plus d'accidents. Bon, rien d'extraordinaire, mais bon, ils se basent quand même sur un certain nombre de chiffres très précis. Donc qui sont consultables sur ce rapport. Donc je vais essayer de me dépêcher. Hop. Il cite quelques exemples. Alors bon, les exemples de toxicité, vous les connaissez tous, plus ou moins. Mais par exemple, est-ce que vous saviez que dans les commutateurs automobiles, les interrupteurs, il y a eu beaucoup de mercure dans les pneus? Il y a des toxiques dedans, mais qui se libèrent quand la voiture roule, par exemple. Les petites masselottes qui servent à équilibrer les pneus, quand vous faites équilibrer vos pneus de vos voitures, en fait, tombent des roues, puis les voitures roulent dessus et ça libère du plomb directement dans la nature. Voilà, c'est plein de petits exemples comme ça qu'il y a dans ce rapport. Bon, alors les produits électroniques, là aussi... ça c'est un peu connu, le cadmium, le plomb, les jouets, je crois qu'on en a parlé ce matin. Hein, le plomb sert par exemple à stabiliser le PVC et aussi beaucoup de plomb dans les petits bijoux pour enfants. Donc ça se libère au fur et à mesure de l'utilisation. Les phtalates, action sur la fertilité, développement sexuel... c'est connu, mais comme il faut que je me dépêche, je vais vite. L'UNEP parle du coût de l'inaction. Alors, je vais juste citer un exemple qu'ils disent. Je ne sais pas si vous avez en mémoire cet accident. Un pétrolier qui était censé rapporter 17 millions de dollars à la compagnie avec son chargement, au lieu de faire nettoyer ses cuves dans les règles, en fait, a déversé 581 tonnes de déchets toxiques en Côte d'Ivoire. Donc ça a entraîné, dans ce pays, 83 000, vous voyez les chiffres. Et après, il y a eu une amende. Donc 250 millions de dollars pour cette société. Donc c'est pour montrer que si on ne prévient pas ce genre d'accident, ça coûte très cher à la société, qui a peut-être eu du mal à se redresser après cette amende importante. Pollution de l'eau, donc je vais y aller. Les pesticides, par exemple. Ouais, je me dépêche. J'aurais dû faire moins de diapos. Voilà, les pesticides, l'utilisation des pesticides qui sont bien pour les récoltes, soi-disant, mais en fait, ça le fait perdre des récoltes, une perte de récolte estimée à 1,4 milliard de dollars aux États-Unis. En Afrique subsaharienne. Après, il y a le Royaume-Uni, mais c'est juste un accident. 90 milliards d'ici à 2020 risquent d'être perdus parce que ce pays, comme vous le voyez tout à l'heure, utilise énormément de produits pesticides, mais dans la plus totale anarchie. Et donc, en Afrique subsaharienne, les dépenses publiques liées aux intoxications, liées aux pesticides, sont supérieures aux dépenses pour la santé, excepté les dépenses pour le sida, qui sont des dépenses un peu à part. Les produits chimiques ont un problème quand même, c'est pas si simple que ça, pour résumer, c'est-à-dire les USA produisent 5,7 millions de tonnes de polluants, et ces polluants donc persistent dans la nature. Donc 970 000 tonnes sont cancérigènes, 857 000 tonnes sont toxiques. Donc les Américains sont bien au courant de ça, mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de solution. Je me dépêche. Hein. Le bénéfice de l'action, donc ça c'est l'autre partie du programme, qui essaye de montrer qu'en faisant, en gérant mieux les produits chimiques, non seulement on sauve des vies et on économise, on protège l'environnement, mais aussi on peut faire des bénéfices plus importants, bénéfices pour les entreprises elles-mêmes, pour les pays et même pour la population, parce que vous voyez, par exemple, l'exemple de l'Indonésie, il prévoit une 55% d'augmentation des revenus des ménages et aussi un gain du PIB de 22% simplement en gérant mieux les produits chimiques. Parce qu'on appelle le GIR, gestion intégrée des ravageurs. L'essence sans plomb, je me dépêche. Voilà le bénéfice qu'on a, le fait de passer de l'essence normale à l'essence sans plomb, on estime qu'il y a eu un bénéfice global hein, sur la santé de 2,4 milliards de dollars santé et environnement, qui représente quand même 4% du PIB mondial annuel. Pour les gens qui se demandaient si c'était vraiment important de passer de l'essence normale à l'essence sans plomb, ben voilà, ils ont réussi à mettre des chiffres là-dessus. Pardon ? J'arrête. Alors voilà.
On confuse.
La dernière diapo.
Voilà.
Dernière diapo. Ce que dit l'ONU, c'est qu'une gestion saine des produits chimiques doit être considérée exactement comme si on investissait dans le développement industriel, dans la santé, l'éducation, etc. Et ils ont estimé qu'au niveau mondial, si on gérait mieux les produits chimiques, ce qui est loin d'être fait parce que l'objectif de 2020, à mon avis, est très très optimiste. Enfin, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Et donc ça permettrait... Ah, ça marche pas. Voilà, 100 milliards de dollars pourraient être économisés, ce qui est quand même une somme importante, en gérant mieux ça. Pour résumer, et j'arrête là, ce rapport, c'est quand même un gros boulot. Au total, il faut continuer à travailler là-dessus, réfléchir là-dessus, parce que même l'ONU n'a pas réussi à dégager de solutions miracles pour éviter les effets néfastes de ces produits. Voilà, je vous remercie.
Merci.